Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver pour Parlons-nous. J'espère que vous avez bien profité de cette magnifique journée, une bulle de douceur, de lumière au cœur de l'automne. Et à n'en pas douter, la nuit sera douce à votre écoute. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Sarah et Paul vont vous accueillir et vous guider jusqu'à l'antenne. Marc Bisset, à la réalisation de l'émission, me fait signe que l'on peut commencer. On n'attend plus que vous et vos appels, 09 69 39 10 11. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, bienvenue.
Merci. Alors je vous appelle parce que ça fait 2 ans que j'ai une vie très compliquée.
Ah bon?
Parce qu'en fait, je vais commencer depuis le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, mon voisin qui est célibataire, mon voisin du 2e étage, et je suis au 5e étage, qui est célibataire donc, m'a invité à dîner. Je suis allée dîner chez lui pour faire du bon voisinage. Je pensais pas à plus. Oui. Et puis ça s'est bien passé, mais je l'ai trouvé. J'ai pas trop aimé son caractère. Ça m'a pas trop plu. Il m'a réinvité à dîner. J'ai dû retourner une 2e fois. Et j'ai pu constater que je l'appréciais pas vraiment. Et donc, il m'a réinvité une 3e fois. Et là, j'y suis pas retournée.
Oui.
Et 2 ans plus tard, oui, j'avais oublié mes clés chez moi. Donc, je lui ai envoyé un petit texto pour qu'il m'aide à m'ouvrir la porte de chez moi. Il est venu, il m'a aidé à ouvrir la porte. Et oui, après il m'a proposé d'aller boire un verre chez lui. Et il a été tellement amical, chaleureux, à la fois un petit peu d'emballement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il m'a un peu piégé, quoi. Donc je lui ai dit bon, d'accord, je viens boire un verre chez vous.
Mais vous voyez aussi, vous étiez certainement reconnaissante qu'il ait réussi à vous ouvrir la porte et...
Bien
c'est une
sûr.
Façon de le remercier aussi, enfin.
Bien sûr, tout à fait. Je pouvais difficilement me dérober. Et donc, je suis allée boire un verre chez lui. Il m'a proposé d'aller au restaurant le lendemain, mais tout ça sur un ton toujours très amical. Et je me suis dit, bon, j'étais un peu naïve, j'étais un peu à l'ouest. En fait, c'était une période où j'étais très heureuse et très sereine. Et je me suis un peu laissée faire et je suis allée dîner avec lui. Mmh. Et le lendemain, il a sonné chez moi pour prendre un verre avec moi encore. Et je me suis sentie un peu obligée, encore une fois, à son ton, à sa façon de proposer les choses. Très enthousiaste, très amicale. Oui. Donc je voyais pas ça comme de la drague, si vous voulez. Je voyais ça comme du voisinage,
comme la sympathie, mais oui.
Voilà, de la sympathie, exactement. Et puis là, il m'a un peu forcé la main pour qu'on ait une relation.
Ah bon?
Oui, il a été très autoritaire avec moi.
Donc il a changé de registre, de ton.
Exactement, il a changé de registre.
Oui.
Et ça m'a fait peur, en fait. Ça m'a un peu fait peur.
Et de quoi, oui.
Voilà, et j'ai pas osé dire non. Je me suis sentie obligée. Enfin, j'ai dit non une première fois, et puis il a insisté. Mm. Et donc, j'ai pas osé. J'avais peur, il était très autoritaire. Et là, de là est partie une relation comme ça sur 2 ans.
Ah bon?
Il est venu sonner chez moi régulièrement, voire tous les jours à des moments.
Ah bon?
Oui, et j'ai pas su comment m'en débarrasser. Alors, un soir, au tout début de cette histoire, un soir, je lui ai dit non. Il m'a quand même, il m'a encore forcé la main. Et je me sentais, si vous voulez, je me sentais un peu débordée par son activité sexuelle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Le fait comme ça, qui me laisse pas de temps pour récupérer entre 2 relations, ça m'oppressait.
Mais parce que quand vous dites qu'il ne vous laissait pas le temps de récupérer, c'est-à-dire que
tous les soirs, il venait frapper à ma porte pour avoir une relation.
Tous les soirs?
Tous les soirs, au début tous les soirs, après un peu, après ça c'est un petit peu.
Mais quand il arrivait, il était comment dire dans la, parce que vous disiez au départ, il avait un ton qui vous paraissait, hein, que vous avez cru amical, chaleureux, sympathique, bon, ou... mais quand il est une fois qu'il, enfin vous dites qu'il vous a contrainte à avoir une relation sexuelle, quand il est revenu. Comment se présentait-il, autoritaire à nouveau?
Alors,
ou pour lui c'était indu, enfin normal, comme si vous étiez dans une relation de son point de vue à lui, hein, j'entends.
Oui, exactement, oui, c'était comme si c'était indu, comme si c'était. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'après le premier soir, il m'a vraiment forcé la main. Il est venu le lendemain, il m'a dit, voilà, je voudrais que vous ne portiez pas plainte pour viol.
Ah bon ? Oui, donc ouais. Il savait très très bien ce qu'il avait fait. Hein.
Voilà, exactement.
Non, parce que c'est important ce que vous me dites, parce que même, on voit bien d'ailleurs, au départ, vous me parlez de naïveté, vous dites que vous ne l'avez pas vu venir, finalement.
Non, j'ai pas vu.
Un côté très prédateur de sa part, très manipulateur, peut-être un
c'est
peu.
Ça.
Mais donc, le lendemain, après ce viol, puisque c'est lui-même qui emploie le mot, il est revenu vous demander de ne pas porter plainte. Et comment était-il là ?
Il était assez sûr de lui.
Oui.
Et à la fois un petit peu embarrassé quand même par la situation, parce qu'il avait vraiment peur que j'aille porter plainte. Et c'est ce que j'aurais dû faire de toute façon, parce que c'était un viol. Et par contrainte, si vous voulez. Alors après, il m'a pas violenté, mais bon, quand on est très autoritaire avec quelqu'un et qu'on parle très fort, ça peut être un peu impressionnant. Et puis, de toute façon, il m'avait...
Si à partir du moment où vous ne souhaitiez pas de relation sexuelle avec lui et qu'il vous l'impose, même si il ne vous a pas brutalisé par des comportements, le fait d'imposer une relation sexuelle, c'est un viol.
Ben oui. Donc voilà, donc pendant 2 ans, alors il y a des moments où je me suis rebellée, mais j'avais aucune prise sur lui, il continuait...
Quand il est venu, pardonnez-moi, parce que quand il est venu là, est-ce que vous, dans votre tête, voulez le lendemain vous dire de demander de ne pas porter plainte ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous là, vous, dans votre tête à vous ?
Dans ma tête, si vous voulez, comme il avait été à la fois... en fait... Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? C'est compliqué. En fait, bon,
oui, j'entends ça.
Oui, c'est compliqué parce que comme on avait bu un peu d'alcool, j'ai eu du plaisir dans la relation. Et ça m'a un peu, pas culpabilisée, mais je me suis dit, bon, je vais pas porter plainte parce que finalement, c'est pas un viol. Finalement, comme j'ai eu du plaisir. C'est idiot, hein.
Non, idiot n'est pas le mot. Non, mais non. Oui, vous vous êtes senti coupable finalement.
Je me suis senti coupable.
Vous êtes dit, à partir du moment où il vous a imposé, mais où finalement il y a eu du plaisir, vous êtes dit comme si vous participiez vous-même à ça. Mais...
C'est ça, exactement. Exactement. Et après, il est venu sonner donc tous les soirs pour avoir une relation.
Oh,
et puis il s'est avéré. Je pensais qu'il allait être, que ça allait être un homme correct parce qu'il est très bon chic, bon genre. Et je pensais qu'il allait être correct, qu'on allait avoir peut-être une vraie relation finalement. Mais quand ça commence comme ça, ça peut pas être correct de toute façon.
Non.
Je me suis fait des idées. Je me suis fait complètement des idées.
Mais vous me dites au départ, cet homme, il vous plaisait pas. Vous avez dîné une première fois, puis une deuxième fois. Il y avait des choses chez lui qui ne vous plaisaient pas, me dites-vous.
C'est ça, exactement.
Mais finalement, après, dans cette relation-là, vous vous êtes dit, peut-être, il pourrait s'installer une relation entre vous.
Ben oui, parce que je sentais un tel désir de sa part que je me suis dit, s'il me désire comme ça, il va peut-être se comporter, il va peut-être être un homme agréable pour moi. Je me suis dit ça, si vous voulez, comme j'ai cédé à son désir, alors que moi j'en avais pas, je me suis dit, peut-être que... Et puis si vous voulez, le fait qu'il vienne tous les jours comme ça et que j'ai des relations sexuelles avec lui tous les jours...
Il venait pour ça, ouais.
Il venait pour ça, oui. Et je n'avais pas d'espace pour me recentrer, Oui, parce que j'ai un trouble bipolaire, donc je suis assez vulnérable.
Ah oui.
Il y a ça aussi.
Il le savait, ça ? Vous l'aviez évoqué avec lui ?
Non, je n'avais pas évoqué avec lui. Non. Je ne le dis pas que j'ai un trouble bipolaire, parce que...
Vous avez raison. Ça ne concerne pas les gens. Enfin, ça, c'est... Et par rapport à ces troubles bipolaires, vous avez un traitement ou dans cette période-là, vous me dites que vous étiez très heureuse à ce moment-là dans votre vie. Vous étiez stabilisée, comme on dit.
Voilà, j'étais stabilisée. J'étais stabilisée, j'étais sereine. J'arrivais à profiter un peu de la vie, à être un peu légère, à être bien.
Mais fragile néanmoins. Un peu influençable finalement.
Voilà, exactement, influençable et fragile, oui.
Et quand il venait comme ça, en fait, il venait pour avoir des relations sexuelles, il repartait, il ne vous a jamais, vous ne vous êtes jamais vu à l'extérieur, vous me dites parce que les premières fois, il y avait eu des invitations à dîner.
Il m'a emmené au restaurant au début, il m'a emmené au restaurant deux fois. Et c'est vrai que moi, je parlais pas beaucoup, j'étais assez pétrifiée en fait.
Vous aviez peur, oui, c'est ça. Il vous faisait peur, cet homme.
Il me faisait peur, exactement. Oui. Il me faisait peur, et je voyais que je me faisais complètement dominer et que je n'arrivais pas à reprendre le dessus, sur cette situation.
Oui, oui. Il y a une forme d'emprise là dans ce que vous décrivez psychologique.
Ben oui. Mais je suis toujours sous emprise. Je sais, je suis encore sous emprise.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous êtes toujours sous emprise dans cette histoire-là ou...
Oui, dans cette histoire-là.
Ou ça vous est arrivé déjà dans d'autres histoires amoureuses ou peut-être amicales de vous sentir au fond dominée, de ne plus savoir mettre des limites finalement à quelque chose ? Vous avez du mal avec les limites ?
Oui,
parce que vous me dites quelque chose qui peut paraître étonnant, j'imagine. Vous dites, dans la mesure, je reprends mon mot, dans la mesure où cet homme vous désirait tellement, au fond, il aurait pu naître une relation. Mais comme si vous étiez absente de ça, presque un peu chosifiée.
Il m'a complètement chosifiée, mais complètement. C'est bien le problème. C'est que je me suis sentie très très vite chosifiée et que je n'ai pas pu me réincarner, je n'ai pas pu reprendre la situation.
Oui, reprendre vous affirmer, reprendre, pouvoir dire non.
Justement, j'ai appelé hier parce que j'ai essayé de le ghoster, comme vous parliez du ghosting hier
soir.
Ah
oui, on en parlait hier soir, oui.
Donc j'ai essayé de le ghoster, mais il n'y avait rien à faire. Il habite à côté, donc c'est ça. Et puis il avait une telle emprise sur moi. Déjà, j'étais déjà un peu terrorisée, donc et ça s'est.
Mais
ça
il s'est senti finalement invincible, puisque il est venu le lendemain en vous demandant, pas pour s'excuser, en vous demandant de ne pas porter plainte. Il savait très bien que vous n'étiez pas vous consentante. Mais à partir du moment où là, finalement, s'est mis en place une relation terrible, c'est-à-dire qu'au fond, il a pris le pouvoir à ce moment-là.
Il a complètement pris le pouvoir.
Il a pris le pouvoir, il a senti que vous étiez pétrifié, et du coup, il est revenu.
Bah exactement.
Mais il alors, ça a duré 2 ans.
Ça a duré 2 ans. Ça a duré de juillet 2019 à juin 2021.
Ah oui.
Et j'ai fini par aller porter plainte à la police pour viol, pour le viol qu'il avait commis en 2019. Donc.
Qu'est-ce qui vous a décidé un jour finalement à faire cette démarche, à porter plainte ?
Mais je voyais que je ne m'en sortirais pas et que ça allait mal tourner. Parce que je me sentais de plus en plus en rébellion.
Oui.
J'avais envie de faire des bêtises, par exemple d'aller lui crever les pneus de sa voiture dans le parking, de faire des choses comme ça, qui ne me ressemblent pas du tout en plus. Mais j'étais tellement à bout
Il y avait une colère qui bouillonnait en vous.
Oui, il y avait vraiment une colère qui bouillonnait en moi.
Une rage presque, oui.
Et donc...
Vous étiez donc, mal, finalement.
J'étais très très mal.
Et dans votre entourage, personne ne s'est rendu compte de cela ? Vous n'avez pu en parler à personne
Alors, j'ai 50 ans, donc j'ai des grands-enfants.
Oui.
Et j'ai fini par leur en parler parce qu'ils voyaient que j'allais pas très bien. J'ai fini par leur en parler. Mais sinon, j'ai pas pu m'ouvrir à d'autres personnes que mes enfants. Je suis très secrète. J'ai du mal à faire confiance.
Ça a dû être... Et puis, ce lien quand même très complexe avec cet homme était compliqué parce qu'on voit bien la culpabilité. Enfin, il y a chez vous...
Oui,
comme si, au fond, il avait fini par vous convaincre que vous étiez consentante. Enfin,
oui, complètement. Mais complètement, je n'avais pas mon mot à dire pour lui.
C'est ça, il venait, il se servait.
Oui, et même quand je lui disais non, il se servait quand même. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, mais j'aurais dû porter plainte.
Bah, vous l'avez fait. C'est-à-dire que c'est après avoir parlé à vos enfants que vous avez pu trouver... Mais au fond, vous reprendre, vous ressaisir, enfin, comme si vous sortiez de cet état un peu de sidération. Vos enfants ont dû... comment ont-ils réagi, vos enfants?
Quand je leur ai raconté... Bon, mon fils, j'ai un fils et une fille. Bon, mon fils, il a réagi en homme quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas été très au début... il ne me croyait pas, il me disait « mais t'es sûre, maman ?» Voilà, bon, donc ça ne m'a pas tellement soutenue.
Il ne comprenait pas, finalement, parce
il ne comprenait pas.
Et puis, certainement que c'était peut-être insupportable pour lui d'entendre cela aussi.
Oui, tout à fait.
Justement aussi, peut-être, en tant que parce que c'est un homme, ça renvoie une image très angoissante. Donc, c'était peut-être pas tant que, vous voyez, il y a une forme de, une réalité qui est tellement dérangeante, qui heurte, angoissante. Parfois, on la met à distance. On préfère se dire, c'est pas possible.
D'accord. Et ma fille, bah, elle m'a comprise, elle m'a écoutée, elle m'a dit de porter plainte si je voulais porter plainte.
Oui.
Elle m'a même accompagnée parce que j'ai dû voir un expert psychiatre pour,
et oui.
Dans le cadre de la plainte. Elle m'a même accompagnée pour aller voir l'expert psychiatre. Elle a été adorable.
C'est bien, elle a été vraiment à vos côtés. Et comment avez-vous été accueillie? C'est un commissariat, une gendarmerie?
Alors en fait, je n'ai pas osé aller au commissariat directement.
Oui.
Parce que je ne savais pas comment j'allais être reçue et comme je suis assez timide en plus, ce n'était pas un geste évident pour moi. Donc
bien
j'ai écrit au procureur de la République.
D'accord, je comprends. Oui.
J'ai tout raconté dans une lettre.
Oui.
Et
vous avez un retour à ce jour
Le commissariat m'a appelé à peu près un mois et demi après que j'ai envoyé la lettre.
D'accord.
Et j'ai pu faire une déposition assez rapidement.
Vous avez été bien reçue?
J'ai été très bien reçue.
Donc la lettre, ça suit son cours, votre plainte.
Ma plainte suit son cours, oui.
Mais alors, comment? Parce que ce qui est très dur, c'est que vous habitez toujours à côté de cet homme.
Bah oui, j'ai eu envie de déménager, mais déménager c'est compliqué, ça coûte cher. Vous conseilleriez de déménager?
Oui. Vous êtes locataire?
Oui, je suis locataire.
Oh oui, il faut que vous déménagiez. Enfin, je vois pas comment vous pouvez, même pour vous, pour vous sentir en sécurité, pour retrouver une sécurité intérieure. C'est insupportable de savoir que cet homme vit en dessous, dans le même immeuble, peut venir, même s'il ne le fera pas. Parce que finalement, vous me dites en juin, vous avez décidé, donc vous avez porté plainte auprès du procureur, mais lui, ne le sachant pas, et a continué à venir vous voir.
Il a continué à m'envoyer des textos, etc. Et la police l'a appelé pour lui demander d'arrêter de me solliciter.
Parce que vous lui avez dit, s'il vous envoyait des textos qu'il ne venait plus vous voir, c'est parce qu'il savait que vous aviez déposé plainte?
Non, les textos...
Pourquoi
c'était...
il s'est arrêté, finalement? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, vous n'êtes pas dans sa tête, évidemment, mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'il s'est arrêté? Puisque vous me dites qu'il est venu très régulièrement, presque tous les jours, tous les soirs.
Voyant que je ne lui ouvrais plus et que à ces textos, je répondais des choses très méchantes...
Oui.
Pour le blesser, pour plus qu'il vienne,
oui.
Il a fini par arrêter de venir, quand même.
D'accord. Bon,
Mais c'est parce que je pense que la police l'a appelé pour lui dire de plus venir parce que la dernière fois que j'ai eu au téléphone, il m'a dit pourquoi t'as prévenu la police. Enfin, il s'est un petit peu agacé. Donc, il a été informé par la police de la plainte.
D'accord. Bon. Et depuis, vous ne lui parlez pas là au téléphone. On a dû vous déconseiller.
Non. J'ai plus aucun contact.
Ah oui, il faut
avec
plus avoir de contact. Oui, sauf, pardon.
Aujourd'hui, je l'ai vu, par exemple. Aujourd'hui, je l'ai vu dans l'ascenseur. Alors, je suis pas rentrée dans l'ascenseur. Je suis restée à l'extérieur. Et il a fini. Et je me suis reculée pour plus qu'il puisse me voir. Et il a fini par me dire. Je te renvoie à l'ascenseur. Il m'a quand même parlé, quoi. Ça m'a embarrassée. J'aurais préféré qu'il ne me parle pas.
Oui, je comprends. Mais c'est pour ça que c'est insupportable, cette promiscuité.
Oui, c'est très
dur. De continuer à vivre dans, là où il se trouve.
Oui.
Enfin, c'est pas tenable, je trouve, pour vous.
Non, c'est très dur. De toute façon, c'est pas tenable.
C'est pas tenable et ça vous met dans un état où vous êtes finalement. Enfin, je ne sais pas. Je peux pas parler à votre place, mais un peu un état d'être sur le qui-vive.
Oui, j'ai été très sur le qui-vive et même pendant ces 2 ans, j'étais très angoissée, très anxieuse à l'idée qu'il vienne frapper à ma porte. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Est-ce que je vais le fait que dès qu'il frappait à ma porte, j'avais une angoisse immense qui montait et c'est pour ça que je lui ouvrais la porte pour que cette angoisse cesse en fait. Enfin bon, c'est vraiment compliqué.
Oui, c'est-à-dire que vous êtes, il y a quelque chose de l'ordre d'une emprise psychologique très forte et c'est important aussi, enfin, j'imagine que l'expert psychiatre que vous avez vu, vous lui avez parlé aussi de vos troubles bipolaires, parce que c'est aussi à prendre en considération en termes de fragilité,
oui,
de vulnérabilité.
C'est sûr que si j'avais pas eu un problème psychiatrique, il aurait pas pu
On ne sait pas, parce que vous savez, il y a des personnes, regardez parfois ce qui se passe dans les mouvements sectaires, des personnes qui, en apparence, ont l'air bien structurées, bien équilibrées, et qui parfois se laissent prendre parce qu'elles sont à un moment de leur vie dans une phase où elles sont un peu vulnérables. On peut être aussi dans une phase vulnérable sans avoir de troubles psychiques, hein, vous savez.
Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, j'étais vulnérable. Hein.
Déjà, vous étiez vulnérable en étant une femme seule.
Oui.
Ça paraît. C'est terrible hein, de dire ça, mais c'est une réalité.
Ben oui.
Ben oui, vous auriez eu un compagnon, ça ne serait jamais passé.
Tout à fait.
Donc,
une grande injustice aussi. Hein.
Mais il y a. Et alors, on voit bien, enfin, quelque chose qui s'est enclenché où vous ne lui avez plus d'emblée. Il y a eu effectivement. Vous lui avez plus à lui d'emblée. Et il a cherché, alors sous couvert, ça peut être une relation comme on peut avoir avec ses voisins conviviales. Bon. Et on peut aller prendre un verre avec un voisin ou déjeuner ou dîner sans pour autant être offerte et acquise.
Ben oui.
Mais dans la tête de certains hommes, encore, une femme qui accepte un verre, c'est comme si. Elle était consentante à tout. La fréquence des viols, les viols, le chiffre des viols est sous-estimé, hein. Et sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte. Et souvent, parce qu'on imagine, ce que les femmes redoutent, c'est le viol par un agresseur inconnu. Alors, on imagine le parking, la rue sombre, des choses. Mais beaucoup de viols se produisent avec l'agresseur est connu de la victime.
Oui.
Enfin, oui. Peut faire partie de son entourage amical, professionnel, et où parfois il peut y avoir une soirée, un verre de prix, vous savez, le fameux tu montes prendre un dernier verre, et où finalement il peut y avoir un verre de prix, Mais sans pour autant, ça ne signifie pas que prendre un verre signifie désirer avoir une, vouloir une relation sexuelle.
Et non, mais apparemment...
Et beaucoup de femmes, du coup, ne portent pas plainte parce que quand l'agresseur fait partie de l'entourage et qu'au fond, beaucoup disent « Oui, mais je n'aurais pas dû y aller. J'ai accepté de prendre un verre avec lui. Je n'aurais pas dû. » Du coup, finalement, il y a un retournement de la culpabilité et comme si elles étaient, elles s'étaient elles-mêmes mises dans cette relation, alors qu'en fait, c'est plus un piège qu'autre chose. Vous voyez,
oui,
parce qu'un homme équilibré et bien structuré, même s'il a, il éprouve à ce moment-là, et même avec de l'alcool, parce que l'alcool n'excuse rien, je suis désolée, un désir très fort, irrépressible, pour une femme avec qui il passe une soirée, si à partir du moment où la femme dit non, c'est non. C'est tout. Alcool
mais
ou
oui.
pas
Oui, oui, non mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, non, mais c'était un piège. De toute façon, je le dis comme ça.
Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Au départ, il y a malheureusement, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous avez perdu vos clés. Et bah, vous le connaissez, vous allez demander comment on ferait. Voilà, ce voisin, vous le connaissez, lui demander de l'aide. Bon. Il vous aide avec, j'ai sur votre petite fiche une radio ouvert à votre porte. Et finalement. Ben là, c'est il a profité. La brèche était, c'est-à-dire que
c'est ça.
Je t'ai aidé. Tu viens prendre un verre. Enfin, et vous, finalement, vous avez été, c'est terrible, poli.
Oui, exactement.
Au départ, très poli, oui. En disant bon, il m'a aidé. Oui, je ne peux pas refuser. Alors après, comment êtes, où en êtes-vous? Comment vous sentez-vous vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, je me sens très très mal.
Très mal.
Je me sens en fait, je me sens vidée. Je me sens humiliée. Je me sens chosifiée. Vous avez employé ce mot
c'est
et
ça.
C'est exactement ça. Mmh. Je me sens chosifiée. J'ai plus d'identité. C'est compliqué. C'est compliqué pour moi aujourd'hui.
Vous l'avez bien expliqué ça, ce que votre ressenti à l'expert psychiatre.
Non, j'ai pas pu. Il a pas été très accueillant.
Ah bon.
J'ai pas pu lui
exprimer.
Non,
ah
j'ai
bon.
Pas pu lui exprimer. Il aurait peut-être fallu que j'en parle avec vous, par exemple, avant, pour avoir les mots pour le dire, parce que c'est vrai que là, je commence à pouvoir en parler.
Oui. Depuis.
Mais pendant longtemps, j'ai pas pu en parler. Je pouvais quand je suis allée voir l'expert psychiatre, j'étais encore très très mal au point d'être dans une colère telle que je pouvais pas m'exprimer sereinement et mettre des mots sur mes angoisses.
Parce que là, vous le faites bien. Hein. Vous exprimez bien ce que vous ressentez. Est-ce que il n'est pas trop tard hein, d'ailleurs pour cela, parce que pour vos troubles bipolaires, vous êtes suivi par un psychiatre qui vous prescrit votre traitement.
Oui, c'est un psychiatre.
Avec qui vous avez une bonne relation.
Sans plus.
Sans plus.
Oui,
vous n'êtes pas en thérapie avec lui.
Non, je suis pas.
Donc avec lui, vous n'avez pas évoqué là ce que vous
j'ai
avez
subi. J'ai évoqué la plainte. Je lui ai dit qu'il y avait un voisin qui m'avait abusé et que j'avais porté plainte, mais c'est tout.
Et il n'a pas, il ne vous a pas demandé comment vous étiez suivi. Non, il n'a pas posé de questions.
Non, il n'a pas posé de questions.
Parce que, je pense que ça serait important que vous bénéficiez là. Ça me paraît primordial d'un soutien psychologique, hein, Géraldine.
D'accord.
Oh oui. Que vous soyez accompagné.
D'accord.
Parce que c'est comme s'il y avait aujourd'hui, ça, vous avez agi, il y avait quelque chose un peu comme un automate en vous.
Oui.
Comme si vous ne. C'est pour ça que je pensais à quelque. Comme si vous n'étiez plus un sujet, une personne pensante. Et, alors qu'on sent que vous êtes quelqu'un qui a cette capacité à réfléchir, à verbaliser. Mais face à cet homme. Vous étiez comme une poupée de chiffon, quoi. C'est l'image qui me vient, en fait.
Oui, c'est exactement ça.
Il a dû le sentir, d'ailleurs. Enfin, il y a quelque chose, il s'est engouffré là-dedans.
Ah, oui,
et
oui,
il
oui.
vous est arrivé des... Sans... Dans votre histoire personnelle, il y a eu des moments dans votre vie, ou peut-être dans votre enfance, où vous avez le... comme ça, vous vous êtes retrouvée dans une situation où on ne vous considère, oui, où on ne vous considère plus comme une personne, mais plutôt.
Je me sentais comme ça avec ma mère, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai des difficultés aussi, mais je me sentais comme ça avec ma mère, assez chosifiée, assez niée.
Comment ça se traduisait? Comment elle était, votre mère, avec vous?
C'est-à-dire qu'elle ne prenait pas en considération mes demandes, mes choix. Elle était souvent contrariante.
Intrusive un peu avec vous?
Voilà, intrusive, exactement. Intrusive, tout à fait. Elle était intrusive et elle était abusive, quoi. Abusive, je sais pas.
Oui, donc il fallait pas la contrarier. Elle se mettait en colère, sinon qu'est-ce qui se passait?
Voilà, elle se mettait très en colère. Elle se mettait très en colère et il fallait pas la contrarier.
Donc très tôt, vous avez intégré la docilité, un peu la passivité, pour pas la contrarier.
Oui. Oui, oui.
Vous viviez seule avec elle?
Je vivais avec ma grande sœur et elle.
D'accord.
Mais quand ma grande sœur n'était pas là, elle se déchaînait un petit peu.
De quelle façon?
Par exemple, elle invitait des hommes à la maison.
Et qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire, elle invitait des hommes
Elle avait des relations sexuelles et je voyais ce qui se passait. Enfin bon, des choses comme ça.
Vous étiez témoin de ces ébats sexuels avec des hommes?
Oui, j'ai été témoin de ces ébats sexuels avec des hommes.
Et ça, c'était dans votre enfance?
J'avais 12 ans.
Voilà.
Oui, c'est dur.
Et vous étiez, parce qu'à 12 ans, ces hommes qui venaient comme ça à la maison, est-ce que certains se sont intéressés à vous?
Non, non. Mais j'ai pas subi de violence, d'agression sexuelle.
Le fait de voir votre mère dans cette situation-là, c'est un traumatisme.
Oui.
C'est qu'on voit bien à quel point elle pouvait pas être une mère pour vous. Et certainement, si vous évoquez cela, c'était sous l'effet de l'alcool où votre mère avait des troubles psychiques, vous pensez?
Non, c'est vrai qu'elle... c'était pas sous l'effet de l'alcool. Et
non,
a priori,
elle n'était pas alcoolisée.
Non, elle n'était pas alcoolisée quand elle faisait ça. Et a priori, elle n'a pas de troubles psychiques avérés.
Donc, ça paraît quand même étrange comme comportement. Ces hommes qui venaient à la maison et alors que vous étiez présente, vous voyez, votre mère aurait pu. Quelle est une sexualité qu'elle aille dans des clubs, on en parlait la semaine dernière, libertins, mais qu'elle est en dehors. Mais là, c'était dans la maison et vous étiez présente et elle savait que vous pouviez voir ces scènes-là. Et ça, forcément, ça interroge parce que on se dit, soit elle n'était pas dans son état normal et alcoolisée ou prenant d'autres substances, ou alors quand même avec. Sans que ça relève de la psychiatrie, mais quand même quelque chose d'un trouble.
Oui, mais je suis d'accord.
Vous voyez,
avec
parce
ça.
Que pour une, enfin, déjà le fait de s'exposer dans sa sexualité devant ses enfants et de faire prendre des risques à ses enfants, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous avez fait votre première expérience de ça, des hommes finalement qui venaient. Et où votre mère était, alors même si on n'ose pas dire, elle les faisait venir. Mais enfin, vous voyez, il y a une image de... C'est très angoissant ce que vous décrivez.
Oui, oui, ça m'a beaucoup angoissée. Hein.
Pour une enfant, parce qu'à 12 ans, on est une enfant, encore. Et voir votre mère se livrer à des ébats sexuels avec plusieurs hommes, c'est même si vous n'avez pas subi vous-même, et heureusement, d'attouchement, ça a fait effraction en vous, dans votre tête.
Oui, oui.
Parce que la scène que vous décrivez est un traumatisme.
Oui.
Profond. Et peut expliquer alors vos difficultés aussi d'adulte, hein, vos troubles bipolaires, vos et aussi peut-être cette immense vulnérabilité que vous avez éprouvée face à cet homme.
Oui.
Où finalement c'est comme si vous étiez enfant et dans l'incapacité de vous défendre. Cet homme qui vient frapper à votre porte, finalement, comme si vous étiez, c'est pour ça que j'utilisais le terme, un peu comme une poupée de chiffon entre ses mains et que vous n'aviez pas d'autre choix que de lui ouvrir votre porte. Parce qu'en fait, derrière, moi, j'entends de la peur.
Oui, oui. Une grande peur. J'ai eu une grande peur, là. Pendant 2 ans, j'ai eu peur tous les jours.
Mais comme vous avez dû avoir peur quand vous aviez 12 ans et même avant.
Oui. Bien sûr, j'avais très peur de ma mère.
Vous avez des liens encore avec elle ?
Très peu.
Très peu. Moi, je pense vraiment, Géraldine, il faut que vous soyez accompagnée et vous pourriez vous mettre en contact avec une association d'aide aux victimes. Au commissariat, d'accord, ils peuvent vous donner les coordonnées.
D'accord.
Peut-être l'ont-ils fait d'ailleurs ?
Non, j'ai pas eu.
Parce que ça serait bien que vous preniez contact avec une association d'aide aux victimes dans votre département et que vous rencontriez, ils pourront vous donner, alors il peut y avoir des groupes de parole, des entretiens individuels, un soutien aussi juridique, parce qu'il faut que vous ayez un bon avocat et un accompagnement psychologique là. D'accord. Avec quelqu'un qui puisse être à vos côtés et vous accompagner.
D'accord.
C'est essentiel. Et qui peut même faire, je vais vous dire, alors même si la démarche, vous la faites pour vous, pour aller mieux, pour vous retrouver et pour pas finalement être envahi par le dégoût de vous-même. Parce qu'il faudrait surtout pas que ça soit ça qui prenne le pas. Vous voyez, quand vous me parlez
oui,
de cette
ce
honte.
Sentiment. J'ai eu ce sentiment. Ça va mieux, mais j'ai eu ce sentiment. Oui.
Donc, c'est important que vous soyez accompagnée. Et le psychologue ou psychiatre, parce que vous pouvez voir aussi un psychiatre, autre que celui qui vous prescrit votre traitement, puisque vous me dites que vous n'accrochez pas trop. Hein. Mais ça peut être un médecin psychiatre qui vous suit dans le cadre d'une thérapie et qui pourra faire... C'est ça se fait, hein, ça. Il faut que vous le sachiez. Une attestation pour le tribunal et pour le procureur. Enfin,
d'accord.
Vous voyez, où là, ce que vous n'avez pas pu dire à l'expert psychiatre, il pourra dire, j'ai reçu à ce jour madame un tel que je suis en thérapie et qui suite aux violences subies, a développé tel ou tel symptôme. Parce que ça, d'accord, ça compte aussi, hein, d'avoir une attestation, un certificat médical.
D'accord.
Et un professionnel peut vous le faire. Hein.
D'accord, mais je sais.
D'accord.
Pas.
Oui, ah, si, oui, si. C'est pour ça, ça peut être une pièce qui peut être jointe à votre dossier plus tard. Il faut que vous le sachiez. Vous n'avez pas d'avocat encore.
Non, pas encore.
Non. Alors, il faut vraiment que vous vous rapprochiez d'une association d'aide aux victimes dans votre région.
D'accord.
Hein, vous pouvez regarder un peu sur Internet et vous pouvez même téléphoner au commissariat. Souvent, à l'entrée, ils ont des coordonnées d'associations, mais pouvez leur passer un petit coup de fil en disant, voilà, je suis venue déposer plainte. Pouvez-vous m'indiquer les associations d'aide aux victimes vers qui je pourrais me tourner ? C'est important
d'accord,
de ne pas
beaucoup,
rester seule.
Caroline. Oui, c'est vrai. Oui, il faut pas que je reste seule. J'ai tendance à m'isoler, mais.
Et
pas.
Je pense vraiment, je vous encourage vivement à déménager. Même si ça a un coût. Ça a un coût, c'est vrai, le déménagement, mais moindre que de rester là, à proximité de cet homme. Parce que ça a un coût psychique aussi. Et d'accord, il faut que vous soyez dans un environnement où vous vous sentez en sécurité. C'est primordial. D'accord?
Oui, d'accord. Bon. Merci beaucoup, Caroline, pour votre aide. Ça m'aide beaucoup.
Bon. Mais écoutez, je vous embrasse, Géraldine. Prenez soin de vous et vraiment, rapprochez-vous de cette association qui va vous aider, vous orienter à la fois sur le plan juridique et sur le plan psychologique.
Très bien, d'accord.
Je vous embrasse, Géraldine.
Merci, Caroline. Au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RT. Jusqu'à 1h30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
Avant d'accueillir Jocelyn, quelques réactions pour Géraldine. Une par SMS de Claire qui dit « L'EMDR, cette thérapie via le mouvement oculaire qui est utilisée dans les cas de stress post-traumatique, pourrait être très efficace pour cette dame vraiment très touchante. Bon courage à elle. » Oui, ça peut être effectivement une thérapie, quand il y a un traumatisme, une thérapie qui a de bons résultats. Il faut vraiment qu'elle se rapproche d'une association d'aide aux victimes. Il y a Bambi aussi qui dit « Cet homme a opéré sur vous un matraquage qui vous a paralysé, tout comme les relations de votre mère ont dû vous effarer. » Conservez cette douceur qu'on ne vous a pas volée. Voyez un thérapeute qui vous aidera. Courage à vous. Et d'autres réactions aussi, Paul, sur la page Facebook.
Bob le timide qui dit ben, c'est vrai que le fait d'avoir des amis hommes dans votre entourage, ça pourrait aussi permettre de le freiner sur ses agissements, sur le fait d'être présent et qu'ils soient encore un peu là.
En attendant qu'elle déménage, parce que je ne vois pas comment, enfin, c'est pas possible que Géraldine reste dans le même immeuble que cet homme.
En attendant qu'elle déménage, oui. Parce que Katou dit ben, il faut que vous déménagiez absolument, il faut vous éloigner de cet homme. Sinon, vous risquez de ne pas tenir le coup. Oui. Sur tous les plans, il y a aussi Anne qui dit la même chose. Quittez votre logement, même si ça coûtera cher, votre bien-être n'a pas de prix. Souvenez-vous, avant cette histoire, vous étiez heureuse. Et puis, il y a aussi France qui dit qu'elle est au cœur avec elle, avec Géraldine. Et oui, il faut que vous soyez soutenue. Et une association, ça aide aussi beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller frapper à certaines portes.
Oui, oui, et l'association enfin, d'aide aux victimes, quand Géraldine enfin, leur parlera de cette situation et que son agresseur vit trois étages en dessous d'elle, enfin, je veux dire, elle n'aura même pas besoin d'expliquer. Eux aussi vont l'aider certainement dans les démarches, même d'un point de vue social, pour qu'elle puisse se déménager. C'est vraiment la priorité là. Merci en tout cas pour vos réactions. On accueille maintenant Jocelyn. Bonsoir Jocelyn.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci de me recevoir à l'antenne. Et merci à Paul et Sarah pour leur accueil. Voilà, je vais essayer de faire assez court. Avec mon épouse, nous sommes mariés depuis 27 ans.
Oui.
Nous avons trois enfants. Puis, ben voilà, ça fait 5 ans à peu près que je ne me retrouve plus, enfin on ne se retrouve plus dans notre couple. Voilà, il y a de la distance qui a été mise entre elle et moi.
Ouais.
J'arrive pas à essayer de recoller les morceaux.
Vous aimeriez, vous en souffrez de la distance qui s'est installée?
Oui.
J'ai essayé d'en parler,
j'ai essayé de proposer des choses, mais à chaque fois, c'est pas un refus, mais oui, je suis pas sûr que ça marchera. Enfin voilà, c'est toujours des.
Donc, qu'avez-vous proposé?
Moi, ce que j'ai proposé récemment, à deux reprises, hein, mais j'ai pas eu une adhésion totale à cette idée, c'était d'aller voir un psychologue pour un couple. Enfin,
oui,
pour les couples.
Un thérapeute de couple.
Un thérapeute de couple, voilà.
Oui, vous avez raison, ça pourrait vous aider effectivement à.
Voilà, j'en ai discuté avec d'autres personnes dans mon entourage, pas plus tard qu'aujourd'hui avec un collègue. Il m'a dit oui, effectivement, ça peut être la solution. Ou en tout cas, la bonne démarche. Voilà. Donc, du coup, là, je ne sais pas.
Elle ne veut pas. C'est-à-dire qu'elle elle refuse de faire ça.
Elle n'est pas persuadée que c'est ce qui améliorera la situation actuellement.
Mais a-t-elle envie, elle, que ça s'améliore? Parce que.
J'ai pas l'impression.
Mais elle vous fait des reproches? Qu'est-ce qui a changé? Enfin, elle vous reproche des choses?
Ben en fait,
elle est agressive avec vous ou fuyante? Qu'est-ce que...
Oui, agressive, on peut dire ça.
Oui.
Pas plus tard que dimanche soir, par exemple.
Qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir?
Dimanche soir, elle est rentrée du travail et puis. Bon, elle travaille en milieu hospitalier, donc je peux comprendre que voilà, les journées sont parfois
fatiguée,
difficiles.
Oui.
Voilà. Et donc, bon, moi, j'avais préparé le repas et je me suis dit, je vais essayer de l'accueillir de manière sympathique. Et voilà, la seule phrase que j'ai sortie, je lui demande si ça va. Mmh. Elle me dit, mais t'as vu ma tête? Je lui dis, non, enfin, j'ai pas vu ta tête, mais bon, enfin, j'ai même pas répondu ça.
Oui.
Mais voilà, je me suis senti, voilà.
Oui, comme si votre question, en fait, elle vous renvoyait que votre question était incongrue, okay. Alors que ça partait d'un. Enfin, c'était gentil de votre part.
Voilà,
vous vouliez, voilà, prendre, demander, un peu ouvrir le dialogue, comment s'était passée sa journée.
Exactement.
Et en fait, elle ferme tout de suite en disant, bon, t'as vu ma tête, quoi. Donc ça clôt l'échange.
Ça clôt l'échange. Bon, voilà. Donc, du coup, j'ai dit, tu vois, je fais l'effort de communiquer puisque c'est ce qu'elle me reproche. Et tu me réponds de manière un peu agressive. Quoi.
Oui, oui.
Alors là, c'est parti effectivement en envolée. Et limite, elle m'a agressé physiquement.
Ah bon,
enfin, parce qu'il y a eu d'autres paroles échangées.
Oui.
Et puis bon, enfin, ce qu'elle m'a dit aussi, elle m'a dit, mais tu vois, j'aurais préféré que tu me dises comment te sens-tu, ou alors je t'ai préparé le repas, détends-toi et on mange tranquillement après. Bon, moi, j'ai juste simplement dit comment ça va, comme dans le sens justement comment te sens-tu.
Oui,
quoi.
Mais enfin, comme là, l'ambiance est tendue en ce moment, là, elle joue sur les mots et elle vous facilite pas la tâche. Oui.
C'est en permanence qu'elle joue sur les mots et moi, parfois, je. Alors, je ne dis pas que je rentre dans son jeu, mais parfois, elle-même s'exprime et j'essaye de comprendre ce qu'elle veut dire. Puisque,
oui.
Et donc, je la reprends en disant, mais t'as plutôt voulu dire ça. Et elle me dit, mais arrête de jouer sur les mots, tu m'as très bien compris. Je dis, non, si je te reprends, c'est parce que justement, je n'ai pas compris. Et que, bon, enfin, voilà.
Tout cela est parti de.
Et tout cela est parti, en fait. Elle a eu une prise de conscience. Donc, notre enfant, enfin, l'aîné, est parti de la maison pour faire ses études.
Oui.
Et en fait, elle m'a dit, pendant 25 ans, j'ai supporté les enfants, je me suis investi pour eux. Et là, le fait que notre fille aînée s'en aille. C'est comme s'il me manquait une béquille et j'ai pris conscience que j'avais rien fait pour moi. Alors que bon, moi j'ai pas eu l'impression que. Alors certes, je l'ai pas forcément épaulée dans les moments difficiles et j'ai pas ressenti forcément les moments où elle était fatiguée. Mais tout ce qui était activité, je reconnais qu'elle a fait les inscriptions, elle a pris des renseignements, etc. Mais moi après, j'ai assuré la logistique où j'estime que c'est un juste partage des tâches. De même que, étant infirmière, elle travaillait les week-ends, je me suis occupée des enfants, j'essayais de tenir la maison.
Enfin, oui, il fallait bien que c'est les week-ends où elle travaillait, c'est vous qui vous occupiez des enfants.
Exactement.
Mais c'est important ça, parce qu'il y a donc le départ de votre fille aînée, c'est récent là, de la maison.
Ça fait 5-6 ans, oui.
Ah, mais c'est à partir de là que ça a commencé un peu mal aller entre vous. Comme si ce départ un peu l'avait déstabilisé, fait un peu vaciller, ça.
Oui.
Quand elle dit « j'ai perdu une béquille », qu'est-ce qu'elle voulait dire ?
Je ne sais pas. Je ne comprends toujours pas. Enfin, bon, voilà, on
elle
fait
s'appuyait
des enfants,
beaucoup sur votre fille aînée
Non. En fait, aujourd'hui... Bon, il se trouve qu'il y a eu d'autres événements aussi. Hein. Elle s'est complètement détachée de sa relation avec sa mère. Bon, ses parents étant divorcés depuis sa plus tendre enfance. Elle n'a jamais eu vraiment une relation mère-fille. Il n'y a jamais eu vraiment cette relation.
Oui.
En fait, c'est sa belle-mère qui s'est occupée d'elle, puisque son père s'est remarié.
D'accord.
Mais c'est un peu sa belle-mère qui a fait l'éducation, quoi.
Elle en voulait beaucoup à sa mère. Vous me dites qu'elle s'est détachée d'elle, c'est-à-dire de ne plus la voir, là, de ne plus avoir de relation.
Ah oui, ça fait des années. En fait, elle considère sa mère comme toxique. Et donc, moi, je me demande si je ne suis pas toxique aussi pour elle.
C'est ça, actuellement, elle est presque. Elle ne vous facilite pas la tâche parce qu'elle est dans un rejet. Enfin, comme le dit une auditrice, Brigitte, dans une agressivité qui fait que vous ne pouvez pas, enfin, même si vous essayez d'aller vers elle, au fond. Alors, est-ce qu'il y a son métier ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? votre fille aînée qui quitte la maison, il y a peut-être aussi la, vous me dites, l'infirmière, peut-être
oui, mais il y a eu d'autres événements aussi qui font que je pense que là, elle est effectivement sous tension.
Elle va mal.
Oui, elle va mal, mais elle ne veut pas le reconnaître. Une de ses amies lui a dit, tu sais, ça serait bien que tu ailles voir un psy, voilà, un psychologue.
Oui, mais, ah oui.
Elle a refusé en bloc. Elle dit mais c'est pas super sympa de mon ami. Bon, moi j'ai pas réagi par rapport à ça.
Oui, il valait mieux pas. Vous avez bien fait.
Voilà, je suis pas allé dans le sens de l'ami. Mais elle me dit mais tu te rends compte, elle m'a dit d'aller voir un psy quoi.
Oui, presque elle a vécu comme une agression, la remarque. Alors que son ami a vu, semble-t-il, que ça n'allait pas et c'était.
Oui,
plutôt...
parce qu'il y a eu d'autres événements. En fait, l'an dernier, elle a perdu son papa. Et notre fils a déclaré un cancer, une leucémie.
Oh là 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 là.
Donc voilà. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. Il a remonté la pente. Voilà.
Il a quel âge, votre fils ?
23 ans.
23 ans. Voilà. Donc, l'année dernière, vous apprenez la leucémie de votre fils.
Le décès du beau-père, déjà. Et puis ensuite, la leucémie. Alors, voilà, ça a été une série d'événements, effectivement.
Oui,
elle a été très proche de lui. Donc, aujourd'hui, ils ont une relation qui est assez, j'ai envie de dire, fusionnaire.
Donc vous vous sentez un peu exclu, vous avez du mal à trouver votre place.
J'ai un peu de mal à trouver ma place, effectivement, pendant toute l'hospitalisation de mon fils.
C'était pendant le Covid en plus.
Oui, tout à fait. C'était compliqué d'aller lui rendre visite. Enfin bon, on a fait des allers-retours.
Oui, puis elle est infirmière, donc ça facilite.
Elle était de la partie.
Oui. Et oui, bien sûr. Quoique bon, avec son fils, elle n'était pas infirmière, mais elle était maman avant tout.
Elle était maman avant tout, mais il a fait une septicémie qui fait que quand elle était à son chevet...
C'était une année terrible. On va marquer une courte pause, le temps des infos, Jocelyn.
Oui.
Et bien sûr, on se reparle tout de suite après. Hein. Restez bien en ligne.
Jusqu'à 12h30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
Sur RTL, le soir, on se parle en toute confiance, on se transmet de l'énergie, du courage, on partage nos expériences de vie. Tous vos appels sont les bienvenus. Pendant une demi-heure encore, au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Et vos réactions aussi par SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par SMS. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et on vous retrouve, Jocelyn. Donc, oui. Jocelyn, vous nous expliquiez avant les infos que vous êtes marié depuis 27 ans, vous avez 3 enfants, et depuis 5 ans, ça ne va plus avec votre épouse. Bon, il faut dire que... Alors, ça a coïncidé avec le départ de votre fille aînée de la maison, mais aussi cette dernière année qui a été... terrible pour vous, puisque vous avez eu donc votre fils, âgé de 23 ans aujourd'hui, et qui heureusement, me dites-vous, aujourd'hui va bien, mais a été frappé par un cancer, la leucémie. Et au même moment, votre femme perdait son père.
C'est ça. En fait, elle a perdu son père d'abord, et ensuite, on a appris 2 mois plus tard la leucémie de notre fils. Mmh.
Donc ça a été une année épouvantable.
Voilà. Est-ce que cette leucémie s'est déclenchée suite au choc émotionnel ? On dit qu'il y a des fois dans certaines maladies un déclenchement par choc émotionnel. Bon, voilà.
En tout cas, ça a été.
Parce qu'il était très attaché à son grand-père.
Ah oui.
Du coup, voilà.
Donc il a été dans les hôpitaux, il a passé cette année là dans l'hôpital.
Oui, 2020, 2020 même jusqu'à début 2021, ça a été des allers-retours dans les hôpitaux.
Là, il va mieux, il est sorti d'affaire.
Oui, il est sorti d'affaire, enfin, il est toujours sous traitement.
Oui, oui.
Mais ça va mieux. Enfin bon, il a toujours des angoisses, il est de nature un peu hypochondriaque.
Oui, bah le pauvre, là, il a des raisons de l'être. Enfin, c'est terrible quand on démarre sa vie de jeune adulte, qu'on se lance, je sais pas s'il est étudiant.
Il est étudiant, si,
oui,
il est étudiant.
Ça met totalement...
Il est étudiant en province. Donc, ça ne nous a pas facilité les choses non plus.
Non, vous avez, vous avez vraiment traversé une période affreuse, là. Oui, terrible. D'angoisse.
En fait, il fallait faire le grand écart entre voilà, la province et notre domicile pour faire les allers-retours, essayer d'être à son chevet. En plus, le Covid n'arrangeant pas la situation.
Non.
On nous a refusé des visites. Enfin, bon, voilà, c'était assez compliqué.
Oui. Oui. Et comment, à ce moment-là, est-ce que vous arriviez... Parce que vous me dites que ils sont dans une relation fusionnelle, votre femme et votre fille.
Oui,
c'est,
oui.
C'est-à-dire que, bon, alors, elle est infirmière, en plus. L'hôpital est un lieu... Enfin, elle pouvait peut-être... vous ne pouviez pas y être à deux. Vous dites les visites étaient... Il fallait peut-être que quelqu'un auprès de lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, déjà, il y avait des tensions dans votre couple, mais la maladie de votre fils... ne vous a pas rapproché, bien au contraire.
Non.
Oui. Elle était tournée à ce moment-là, il n'y avait plus que votre fils quoi, qui comptait.
Voilà, bah,
oui.
Bah,
oui.
Mais c'est...
Mais,
oui. Plus,
mais c'est votre fils aussi, vous-même, vous étiez très angoissé.
Mais tout à fait. Mais à distance, ce n'est pas évident de
non.
vivre les choses.
C'est terrible, vous voulez dire.
Ça, je ne sais pas si elle s'en est rendue compte. Voilà, à distance, vivre les choses comme ça, à distance, c'est pas évident.
Oui, vous avez raison. C'est dur, c'est parce que sur place on a l'impression de, alors que tout l'échappe, mais de maîtriser un peu, de, alors qu'à distance on se sent totalement impuissant. Et de toute façon, face à la maladie d'un enfant, on se sent impuissant.
C'est ça, on se dit c'est pas dans la logique des choses. À plusieurs reprises j'aurais voulu prendre sa place.
Mais oui.
Le voir maigri, amaigri et souffrir effectivement avec les différents produits qu'on lui injectait, c'était pas très très gai à vivre quoi. Et bon, je dois une fière chandelle à ma femme, parce que effectivement si elle avait pas été là lors du choc
septique,
je pense que notre fils serait plus là aujourd'hui quoi.
Elle a tout de suite repéré les symptômes.
Ah oui, elle a tout de suite repéré les signes et elle a dit moi je veux voir le médecin chef.
Oui.
Parce que bon, voilà, sa tension chutait énormément.
Oui.
Il y avait plein de symptômes qui faisaient que plein de signes qui faisaient que ça n'allait pas. Et donc elle l'a sauvé effectivement. Il a été transféré en réa. Ça a été très traumatisant pour lui. Il en a une peur bleue aujourd'hui.
De la réanimation.
Et puis aujourd'hui, le moindre petit pépin suite à ses traitements, parce qu'il est toujours sous chignot. Hein.
Oui,
il a des effets secondaires. Et bon, ça l'angoisse, ça l'inquiète. Et, sa seule façon de se rassurer, c'est d'appeler, effectivement, c'est d'appeler sa mère et sa soeur aînée, quoi.
Ah oui. Il n'a pas de... Lui, éprouvé. Oui, il a...
Il a également une psychologue qui peut appeler effectivement quand il en a besoin. L'oncologue le suit est aussi très disponible et le rassure chaque fois qu'il a des petits soucis qui sont pas très graves, mais
il suit
ses bilans sanguins et forcément chaque fois ça l'inquiète.
Bien sûr.
Là cet été on a voulu partir en vacances et puis on voulait prendre l'avion. Il fallait un test PCR plus vaccination. Donc vaccinés on l'était tous et on a fait tous le test PCR. Évidemment le seul qui est sorti positif c'était lui.
Oh là là, le pauvre.
Donc là, c'était grosse angoisse aussi. Parce que finalement, il a dit, mais je suis en train de battre un cancer, me battre contre un cancer, et voilà que je vais mourir du Covid. Quoi. Et j'ai dit, mais non, tu ne vas pas mourir du Covid. T'as ta vaccination, t'es jeune, t'as pas de facteurs.
Oui, mais il est très angoissé. C'est normal. Il a été confronté à un âge où normalement, dans la vie, on se projette à tout d'un coup la perspective qu'il pouvait mourir. Et évidemment, faut du temps pour se remettre de cela. Mais vous avez, vous avez tous été éprouvés. différemment. Oui. Parce que chacun, c'est ça, on le voit bien dans la maladie, chacun, la maladie d'un enfant, ça, pour le couple, ça met le couple à l'épreuve, hein, terriblement. Mmh. Parce qu'en fait, chacun vit dans... Il y a une solitude et qu'on ne peut pas, finalement, pas toujours partager. Qu'on ne peut pas... Il y a quelque chose d'indicible.
Oui, et moi, bon, étant à distance, j'ai envoyé des messages en lui demandant est-ce que ça va, enfin, comment ça va. Et aujourd'hui, elle me dit, mais tes messages, c'est pas ce genre de message auquel je m'attendais, quoi. Bah, oui, mais bon, à distance, comment je peux prendre des nouvelles ?
Bien sûr. C'est ça, c'est terrible de vous renvoyer ça, parce que vous-même, vous étiez malheureux, c'est ce qu'il faudrait lui dire, et très angoissé, et c'était aussi très difficile pour vous d'être à distance. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas des mots, on a besoin de s'appuyer physiquement sur l'autre, de s'étreindre, de se réconforter, pleurer sur une épaule. Bon, mais vous étiez à distance. Et c'est dur de vous le reprocher, mais elle est mal. Elle est mal, comme vous, vous êtes mal, et comme finalement elle a tenu. Vous avez été dans un cyclone, là, dans l'œil du cyclone, pendant une année, vous n'avez pas pu respirer, au fond. Et c'est souvent quand la crise commence un peu à s'éloigner, même si que finalement toute la colère ressort. Et c'est vous qui prenez actuellement.
Oui, mais voilà. Enfin, je pense qu'effectivement, le deuil de son papa, il est encore très, très frais.
Elle n'a pas eu le temps, en fait. Elle n'a pas eu le. Elle perd son père, et finalement.
Et dans. Plus tard,
Oui, elle est dans le. Elle a peur pour la vie de votre fils. Enfin, elle se dit je vais perdre mon fils. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est trop. C'est trop. Et aujourd'hui, là où elle a dans la bataille, il n'y avait plus qu'un objectif. Et encore aujourd'hui, vous dites d'ailleurs, dès qu'il est pas bien, il appelle sa maman. Et finalement, elle est dans cette relation-là. Et vous, c'est difficile. Il faudrait vraiment que vous fassiez aider, parce que c'est tellement.
Moi, quand j'appelle mon fils et que voilà, je donne. En retour, les nouvelles, je lui dis j'ai appelé notre fils, voilà ce qu'il en est. La dernière fois, j'ai donné texto ce que mon fils m'avait dit au téléphone.
Oui.
Et elle me dit c'est bien, c'est très réconfortant, sur un ton évidemment sarcastique, ironique.
Oui, oui.
C'est très réconfortant ce que tu me dis, c'est bien, ça me remonte le moral. Je dis mais je te dis pas ça pour ça, je te dis simplement ce qu'il m'a dit, voilà. Et bon, enfin, systématiquement, de toute façon, quand
elle vous
s'agit
adresse.
De notre fils, c'est pas bien ce que je fais, ça ne lui convient pas. Toutes les propositions que je peux faire, même là, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on pourrait aussi se faire des week-ends pour se retrouver. Elle me dit, ouais, les week-ends, c'est bien, mais je suis pas certaine que c'est ce qui va nous rapprocher, quoi. Ok, alors je dis, je suis peut-être maladroit dans mes propos.
Oui, mais vous en manifestez l'envie et le désir. Qu'elle est, c'est énorme, mais elle entend.
Elle n'est pas
à même de le recevoir. Elle est trop fermée. Il y a trop de colère en elle. Le problème, c'est que.
Oui, et le problème, c'est que cette colère, elle se reporte aussi des fois sur les autres enfants. Enfin, la dernière en
fait. Ah oui. Elle a quel âge, la dernière?
Elle a 16 ans. Donc, évidemment, pleine adolescence.
Il faut la protéger, elle aussi. Oui, voilà. C'est dur pour elle.
Alors, moi, j'ai échangé un peu avec elle.
Oui.
Et j'ai eu le malheur, finalement, de dire à ma femme que j'avais échangé avec la dernière. Elle m'a dit mais tu fais des choses dans mon dos. Et je passe pour la méchante mère.
Elle prend tout mal, oui, elle est à vif.
Pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est pas dans son sens. J'ai pas tiré à boulet rouge. Je cherchais simplement comment communiquer avec toi et savoir si effectivement de l'aide auprès des enfants, savoir comment communiquer avec toi simplement. Et ma fille, après le soir même à table, on a crevé l'abcès. Enfin, elle a crevé l'abcès. Elle a dit je voudrais revenir sur une situation. Effectivement, nous avons des échanges avec votre père, mais ce qu'il n'aurait pas dû faire, c'est vous prendre à partie. Enfin, bon, c'était pas vraiment ça, mais je sais plus dans quel terme elle a dit ça. Moi, je les ai pas pris à partie. Hein, j'ai simplement voilà. Et même les deux filles là remarquent qu'effectivement il y a des situations qui sont assez étranges quoi.
Du style. Plus,
enfin.
Oui, enfin, c'est elle. Elles se sentent en tout cas certainement. Et elle, même si elle n'ose pas toujours l'exprimer, mais un peu délaissée elle-même, enfin, c'est-à-dire qu'elle ne retrouve plus leur mère, quoi, au fond, leur mère.
Oui, c'est
heureusement
ça,
que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là.
Ma dernière m'a dit, mais tu devrais réagir, enfin, tu devrais t'affirmer. Je lui ai dit, mais non, ça ne sert à rien, parce que tout ce que je propose,
elle a pas tort.
C'est réduit à néant.
Oui, mais elle n'a pas tort. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui. J'entends bien que. Parce que. Quand elle vous dit, quand elle est sarcastique, par exemple, c'est une façon. Elle est à fleur de peau, elle est mal. D'ailleurs, son agressivité en témoigne. Mais il ne faut pas que vous deveniez son bouc émissaire. En même temps, c'est facile, c'est vous qui êtes le plus proche. Voyez, elle est. Mmh. Souvent face à la maladie d'un enfant, on en veut à la terre entière, en fait. Il y a une injustice terrible. Et actuellement, vous êtes en train de tout prendre. Alors, et c'est très injuste pour vous, parce qu'il faudrait lui dire dans ces moments-là, c'est aussi mon fils. Et je souffre, oui. Moi aussi.
Ah, mais
et j'ai peur aussi. Il faut pouvoir lui dire. C'est-à-dire qu'à un moment que vous puissiez vous affirmer, ça peut être aussi... De cette façon-là, parce que j'entends que vous êtes malheureux, et malheureux de cette situation aussi, évidemment, et malheureux de vous sentir rejeté. Mais à un moment, il faut aussi, peut-être que sur le moment, elle n'entendra pas, mais dire j'en ai marre. J'entends, tu souffres, mais moi aussi, je souffre. Et on en a tous bavé, là. Et parce que c'est aussi votre fils. Et vous avez eu aussi très peur de le perdre. Vous voyez qu'à un moment, parce que vous voulez tellement bien faire aujourd'hui, parce que vous n'arrivez plus à la retrouver, que vous effacez un petit peu par souci de pour elle, finalement, essayer de la comprendre. Mais à un moment, il faut aussi que vous puissiez lui dire que vous aussi vous souffrez, ou en tout cas, par rapport à la démarche dont vous me parliez, d'aller voir un thérapeute de couple, je trouve que vraiment... Ça serait vraiment important.
Je sais pas, j'hésite à faire ça.
Mais que vous voyez quelqu'un.
Voilà, moi, je me dis, est-ce que...
Il faut que vous voyez.
Un psychologue,
oui, vous faites-le pour vous,
TCC,
un petit peu.
Ou, je sais pas, on m'a parlé de psychologue TCC, voilà.
Écoutez, là, enfin, moi, je... Enfin, les thérapies qu'on... comportementale, oui, ouais. C'est plutôt, enfin, pourquoi pas, mais moi je pense que vous auriez surtout besoin d'un espace de parole pour le moment. Vous savez, les thérapies comportementales, c'est très efficace, c'est des thérapies brèves et autour d'un symptôme, hein, où finalement il y a des exercices à mettre en place. Là, je pense qu'on n'est pas trop dans cet ordre-là. Enfin, il n'y a pas de il n'y a pas un symptôme particulier qui vous fait consulter. Il y a un mal-être au vu de ce que vous traversez. Alors déjà, j'entends avant la maladie de votre fils, mais qui malheureusement n'a fait que s'aggraver, qui aurait pu, vous pouviez rencontrer des difficultés, qui aurait pu rentrer dans l'ordre, si ce n'est que là, il y a eu la maladie de votre fils, votre femme qui perd son père, qui décide de s'éloigner de sa mère. Finalement, elle est un peu en rupture avec tout, et aujourd'hui, il n'y a plus que, au fond, son fils, et vous êtes un peu son bouc émissaire. Et ça va pas.
C'est l'impression. Après, moi, j'essaye de recoller les morceaux, mais j'ai l'impression que, de toute façon, elle n'a plus de sentiments envers moi. Enfin, quand je lui pose la question, elle me dit « je ne sais pas ». Alors, je dis, mais tu sais, tu dois savoir, au fond de toi, si tu as des sentiments pour moi.
Alors, je pense qu'effectivement...
Vous savez, alors, c'est trop tôt pour aborder le sujet.
Oui, je pense qu'elle ne sait plus. Que peut-être, vous savez, quand il y a eu tellement de peur, tellement d'angoisse, tellement de chagrin, de douleur, qu'à un moment, on est un peu comme anesthésié. Et au fond, quand elle vous dit « je ne sais plus », ce qu'elle ressent, en tout cas ce qu'elle exprime actuellement, c'est la colère et l'agressivité. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime plus. Ça veut dire que pour le moment, elle n'est plus capable d'exprimer que ça. Mais ça ne veut pas dire que vous deviez tout encaisser. Parce que d'abord, ça vous fait mal.
Moi, j'encaisse, mais je n'ose plus proposer, j'ose plus rien dire. De peur, évidemment, de me faire foudroyer.
Bah, déjà, et puis à chaque fois, c'est dur pour vous aussi, par rapport aux différentes propositions que vous faites, d'à chaque fois d'essuyer un refus, et donc comme un rejet.
Elle me dit que par rapport à... pendant 25 ans, elle a été effectivement, entre guillemets, meneuse, décisionnaire, et que moi, j'ai été suiveur. Certes, mais bon, c'est un équilibre dans un couple. Moi, depuis le début, enfin les vacances, je proposais des choses.
Mais vous décidez là. Enfin, vous proposez. Finalement, là, je suis désolée. Vous pourriez lui dire là, je propose. Donc, non, elle veut pas entendre. Elle ne peut pas entendre.
Elle ne peut pas entendre, non.
Mais voyez, je vais vous lire quelques réactions. Il y a d'ailleurs une auditrice, Brigitte, qui dit « Il y en a un peu marre qu'elle ne vous entende pas. Ce serait bien que vous voyiez quelqu'un et que vous puissiez vous exprimer. » Parce qu'on sent que vous êtes gentille, vous avez peur de la blesser, mais qu'au fond, ça n'arrange rien. Elle a besoin de rencontrer un moment un peu quelqu'un en face. Parce que là, vous êtes tellement... Vous souffrez vous-même tellement.
J'ai du répondant, mais j'essaye par moment d'avoir du répondant. La dernière fois, on devait aller faire un achat de mobilier. Oui. On s'était dit, le magasin ouvre à 10h. On se prépare pour ce truc-là. Et il se trouve que j'étais réveillé depuis un petit moment, donc je m'étais préparé et je me suis dit... j'ai des petites courses à faire pour la semaine qui vient, donc je suis allé faire effectivement quelques petites courses et je suis revenu à 9h15. Et à 9h15, j'arrive. Enfin bon, avant de partir, je l'avais prévenu. Je lui ai dit, écoute, prends ton petit déjeuner tranquillement, prépare-toi tranquillement. J'en ai vraiment pour 2 secondes. J'ai 3 courses à acheter, 3 courses alimentaires à acheter et je reviens. Et quand je suis revenu, elle n'était ni prête. Et je dis, on y va, tu fais quoi ? Elle me dit, je fais comme toi, j'ai zappé, j'ai plus du tout envie d'aller faire de la prospection.
Elle est très négative et c'est très déprimant pour vous.
Moi, je me remets en question parce que je me dis, mais effectivement, à un moment donné, elle m'a demandé si elle pouvait m'accompagner. Je lui ai dit, mais non, je te dis d'y aller tranquillement, de te préparer tranquillement.
C'était gentil, vous lui laissiez temps de se préparer.
C'était d'une bonne intention. Ce qu'elle me reproche aujourd'hui, c'est que je ne suis pas bienveillant. J'ai pas été bienveillant. Pendant toutes ces années, j'ai pas capté le fait qu'elle était épuisée par
Jocelyn, le problème c'est qu'actuellement, tout comme vous d'ailleurs, elle est épuisée physiquement, psychiquement, elle est en plus dans ce métier de soins. En fait, elle aurait besoin de repos, mais peut-être que c'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, elle doit, vous savez, elle a toutes ses forces. Elle s'est jetée là, dans cette année auprès de votre fils pour lutter. Mmh. Et là, maintenant qu'elle relâche un peu, en fait, elle s'effondre. Et pour ne pas s'effondrer, c'est la colère qui la tient. C'est l'agressivité. Ouais. Parce que la dépression, elle est loin. Elle est pas loin. Hein. Elle est juste derrière. Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle veut pas entendre. Même cette amie, c'était bienveillant de lui dire, écoute, va voir quelqu'un, fais-toi aider.
Oui,
donc pour le moment, vous
ne
pouvez pas le faire pour elle. Vous pouvez le faire pour vous. Parce que, voyez, je vais vous lire, parce que je vois qu'on va arriver à la fin de cette émission et j'entends que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Je vais vous lire quand même des messages. Il y a Brigitte qui dit, il faut vous laisser du temps. Après une tourmente telle que celle que vous venez de traverser. Pour le moment, ne lui parlez pas de sentiments. Elle peut pas entendre. Essayez de changer juste un peu le rapport de force. Et pour cela, il faut que vous ayez un espace pour parler. Et vous pourrez lui dire d'ailleurs, vous pouvez faire la démarche sans lui en parler, dire tu veux pas venir, moi j'éprouve le besoin de parler. Parce que j'en peux plus de cette situation. Et après tout ce qu'on a traversé, en plus, que l'on s'agresse comme ça. C'est ce que beaucoup d'auditeurs disent. Il y a Evelyne de Lisieux, elle dit « Je suis vraiment de tout cœur avec vous, Jocelyn. » Evelyne qui dit « Je connais très bien les angoisses de la maladie d'un enfant. Et c'est très dur. Et je vous souhaite de retrouver de l'harmonie avec votre épouse. » Il y a Clotilde aussi qui dit « Admiration et soutien de tout cœur pour ce couple de parents dans la tempête. » J'espère qu'ils vont se retrouver et se reposer et se, dans un lieu où ils pourront un peu reprendre des forces. Pour le moment, je vois que toutes les initiatives que vous proposez, elles les rejettent. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous occuper de vous. Trouver un espace pour parler, trouver un psy. Moi, je ne verrai pas forcément une thérapie comportementale. Trouver un psy, un psychothérapeute que vous pourriez voir un peu une fois par semaine, voyez, un peu en face à face, enfin à votre rythme, pour parler de ce que vous traversez là. Vous avez beaucoup à dire. Vraiment beaucoup à dire.
Oui, oui, j'ai quelques... aussi oui. avec deux amis, mais
c'est bien.
Voilà, enfin... J'ai même un ami qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je t'accompagne quand tu vas, quand tu iras en consultation. Voilà.
Oui, c'est gentil, c'est gentil. Mais il y a Brigitte qui dit, vous avez besoin de vous reprendre, de vous détendre. Elle dit en tout cas, bravo pour votre bienveillance, justement. Parce que quand on vous entend parler de votre épouse, vous êtes très bienveillant. Mais elle est trop mal pour l'entendre. Mais, et oui, ce n'est pas voilà, le moment de tirer. Après ce que vous venez de traverser, il faudrait lui dire stop. On vient de traverser, on vient de vivre un truc effroyable. On a failli perdre notre fils. Il est là, il est en vie. Alors maintenant, on ne va pas en plus se déchirer là-dessus. Mais elle est là-dedans, finalement, c'est sa façon, certainement pour elle, de tenir, c'est par la colère et l'agressivité. Mais ce n'est pas une raison que vous deveniez son punching ball. Donc, trouvez un espace avec un thérapeute pour parler. Et vous allez voir que vous allez reprendre des forces. Et à ce moment-là, vous pourrez lui parler différemment.
Ouais, je me demande si aussi, il n'y a pas le fait qu'elle ait coupé les ponts avec sa mère depuis des années. Enfin, moi, je trouve ça choquant de dire que sa mère est toxique pour elle. Quoi. Enfin...
Alors, pas forcément. On peut décider dans une relation qui est vraiment toxique, on peut décider pour se protéger en ayant réfléchi là-dessus, de s'éloigner pour se préserver. C'est possible. Mmh. Parce qu'il y a malheureusement des mères qui sont toxiques, oui, pour leurs enfants. Le problème, c'est que vous, vous êtes en train de le devenir. Elle vous traite comme telle. Alors, je ne sais pas d'ailleurs comment... Elle a fait un travail personnel pour en arriver à cette décision ou non? Non, elle n'a fait bah, pas en fait, fait thérapie,
non,
votre
non,
épouse.
Non, elle a juste discuté avec, avec un coach sportif pour lequel elle s'était entichée et...
Ah bon.
Et voilà, oui, oui. Enfin, bon, quand on était parti en vacances il y a 5 ans, et puis même à plusieurs reprises, on est retourné dans le même centre. Et bon, elle a établi voilà, des liens, soi-disant une amitié. Bon, moi après, j'ai été sur, oui. Par hasard sur sa messagerie Messenger et j'ai vu des messages, bon, voilà, assez éloquents. Et bon, j'ai voulu lui en parler. Elle m'a dit, mais non, tu t'imagines des choses. Enfin bon, voilà.
Et vous pensez qu'elle le voit toujours ?
Ah oui, oui, parce que très récemment, elle est redescendue là en province et un soir, enfin bon, elle était effectivement auprès de mon fils et puis elle m'appelle et elle me dit bon ben voilà, j'ai vu notre fils et puis ben là ce soir, comme j'ai publié puisqu'elle avait fait en fait une course là justement pour les enfants atteints du cancer.
Oui.
Donc c'était une bonne démarche. Au départ, elle voulait que je l'accompagne, et puis finalement, elle a décidé que non. J'aurais dû m'imposer, peut-être. C'est peut-être mon tort là aussi. Mais bon, enfin voilà, moi je voulais aussi gérer la dernière, ne pas la laisser seule.
Oui.
Donc voilà, je suis resté là pour elle. Et du coup, le soir, elle me dit, bah voilà, j'ai retrouvé un tel.
Oui.
Et nous sommes au resto. Bon, bah, très bien.
C'est insupportable, elle vous provoque.
Je ne sais pas.
Ah si, c'est de la provocation, elle vous le dit. Si,
oui.
Si. Et oui, oui, non, ça, là, il faut vraiment que vous vous occupiez de vous. Et que pour le moment, enfin, vous verrez, hein, avec le psy que vous verrez, vous aurez plus de temps qu'avec moi pour en parler. Je pense qu'il ne faut plus lui faire de propositions par rapport à votre couple. Elle n'entend pas, elle le rejette en bloc. Il faut vous occuper de vous, il faut que vous repreniez des forces. Et que, en fait, vous vous affirmiez, que vous retrouviez votre place aussi. Et qu'à un moment, vous soyez plus ferme avec elle. Mais pour ça, il faut que vous retrouviez, vous, des forces. Et vous avez besoin d'être écouté, d'être entendu. Vraiment, Jocelyn. Je vous le souhaite de tout cœur, hein. Prenez soin de vous, là, pour le moment. Et vous verrez après, pour votre couple. On va devoir se laisser parce qu'il est minuit 30 et je dois rendre l'antenne. Et j'entends que vous avez beaucoup de choses à dire, mais trouvez un psy. Vraiment, vous avez besoin de parler et d'être épaulé. Je vous embrasse, Jocelyn. Bon courage à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission, des témoignages forts, poignants ce soir. Je vous souhaite une très belle nuit et puis on sera de retour bien sûr avec toute la petite équipe dès 22h ce soir sur RTL.